c'est Mathieu Laurent pour le journal de la rédaction. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, justement, la Syrie et des inquiétudes contre l'application à compter de demain de l'accord russo-turc en zone dite rebelle. Des tirs de mortier ont été entendus ce matin. Un décryptage des postures et déclarations des diplomaties depuis la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Invité de ce journal, Pierre Conessa, spécialiste de l'Arabie saoudite. Le coup de poing sur la table de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, qui rappelle à l'ordre les autorités italiennes. Et enfin, les élections régionales en Bavière. Premières estimations dans quelques minutes, nous serons en ligne avec notre correspondant Ludovic Piétenu. Ce n'est entre guillemets qu'un incident, mais la zone est à ce point sensible qu'il faut en prendre la mesure. Des tirs de mortiers meurtriers retentissent ce matin depuis une future zone dite démilitarisée d'Idlib dans le nord-ouest syrien, conformément à l'accord russo-turc dont on vient de parler. Il s'agirait de la première violation claire de cet accord depuis le retrait supposé des armes lourdes de la part des factions djihadistes. Précision de Beyrouth de Laure Stéphane.
La Turquie et les groupes rebelles qu'elle soutient à Idlib et dans ses environs l'ont assuré il y a 4 jours. En vertu de l'accord russo-turc de septembre, les armes lourdes ont été retirées des secteurs qui doivent constituer une future zone tampon dans le nord-ouest de la Syrie. Une zone qui doit se former aux limites de la province d'Idlib, dominée par les groupes djihadistes et rebelles. Mais contredisant ces affirmations, des tirs de mortier ont été tirés depuis les secteurs de cette future région démilitarisée. Ils ont visé hier un poste de l'armée syrienne au sud de la province d'Idlib. D'autres frappes ont touché la région d'Alep. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, sans identifier les groupes à l'origine des tirs. Ces violations se produisent alors qu'expire demain le délai imparti pour l'application de l'accord russo-turc, un accord qui avait suspendu une offensive des forces pro-régime. Mais les termes sont difficiles à tenir, retrait de toutes les armes lourdes, mais aussi départ des secteurs de la future zone tampon des forces djihadistes. Or, si les témoignages divergent sur leur nombre, ils concordent pour dire que des combattants de ces groupes, dont Tahrir al-Sham, le plus puissant, sont encore présents aujourd'hui sur place. La non-application de l'accord pourrait hâter une offensive du régime déterminé à reprendre le contrôle d'Idlib. Il y a quelques jours, des habitants de la province ont affirmé avoir reçu par SMS un avertissement de l'armée syrienne les exhortant à rester à distance des combattants.
En Libye, plus de 100 cadavres découverts dans un charnier à 15 km à l'ouest de Sirte, ancien bastion de l'organisation État islamique jusqu'à la fin 2016. Sirte repris à l'œil après 8 mois de combat. À 6 jours des élections législatives, les forces talibanes inflige de nouvelles pertes à l'armée gouvernementale afghane. 18 soldats tués ce dimanche lors d'attaques menées contre 2 postes militaires dans l'ouest du pays. À la veille de l'examen par la Commission européenne des budgets des États membres de la zone euro, l'Italie connaît les foudres de Mario Draghi. Le président de la Banque Centrale Européenne tense les autorités italiennes, les invite à se calmer, les somme de cesser de remettre en cause l'euro. D'autant que la dette publique italienne représente quelque 131% du produit intérieur brut, soit le ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce. C'est une correspondance de Bruxelles de Johanna Hochstein.
À l'instar des 18 autres membres de la zone euro, l'Italie doit remettre ce lundi à la Commission européenne son projet de budget prévisionnel pour 2019, un budget qui risque fortement d'être retoqué. Ce serait une grande première, ce cas de figure ne s'est encore jamais présenté, mais avec une prévision de déficit public à 2,4% du PIB, la Commission européenne pourrait difficilement faire autrement. Il en va de la crédibilité du pacte de stabilité et de croissance, explique-t-on à Bruxelles. Alors certes, le déficit italien resterait sous le plafond des 3% fixé par le fameux pacte, mais un budget expansionniste limiterait en fait la capacité de l'Italie à soutenir le poids de son énorme dette publique qui dépasse les 130% du PIB. C'est cela en fait que redoute la Commission. L'exécutif européen va tenter de ramener l'Italie à la raison. Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, devrait être dépêché à Rome jeudi ou vendredi. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet à Bruxelles au même moment devraient aborder le sujet avec Giuseppe Conte, le Premier ministre italien. Objectif, éviter à tout prix une violente crise politique avec l'Italie.
À la veille de la présentation de son projet de loi de finances devant le Parlement portugais, le Premier ministre socialiste a lui remanié son gouvernement. 4 ministres remplacés, dont celui de l'économie. António Costa, arrivé au pouvoir en 2015 grâce à une alliance inédite avec les communistes et l'extrême gauche, est parvenu à tirer profit d'une amélioration de la conjoncture économique. Nombreux à voter et manifestement nombreux à sanctionner le parti en position dominante depuis des décennies en Bavière, l'Union chrétienne sociale social qui dirige ce riche land du sud de l'Allemagne depuis toujours risque fort de perdre la majorité absolue et ainsi d'affaiblir Angela Merkel. Premières estimations il y a quelques secondes sur nos téléscripteurs. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Mathieu, bonsoir
êtes,
à tous.
Vous êtes notre correspondant en Allemagne, vous êtes en direct de Berlin. Ludovic, c'est une CSU abîmée qui sort des urnes de Bavière.
Absolument. Ces premières estimations confirment la sanction infligée à cette CSU, 35,5%. Autrement dit, plus de 11 points de perdu en 5 ans. C'est la sanction de la politique du gouvernement en CSU sortant avec une très forte majorité de mécontents dans toutes les enquêtes d'opinion. La sanction aussi d'une campagne trop droitière sur les thèmes de la sécurité, l'immigration. Un rejet enfin aussi des cadres de la CSU qui sont mal aimés, qui n'ont plus la cote. L'électorat modéré, l'électorat centriste des chrétiens sociaux semble avoir préféré, comme les sondages l'annonçaient, les Verts, Die Grünen, estimés autour de 18,5%. C'est 10 points de plus qu'il y a 5 ans. Ils font donc plus que doubler leur score. C'est une vraie nouveauté. Leur campagne a offert à l'électorat centriste une vraie alternative à la CSU. Troisième force politique, c'est une nouveauté dans le paysage bavarois. 11% pour l'AfD, ce parti d'extrême droite qui n'existait pas il y a 5 ans, va donc faire son entrée au Parlement régional bavarois. Ce parti, élection après élection, s'installe dans la vie politique allemande. Un mot enfin des sociodémocrates qui laissent ce soir beaucoup de plumes. À 20% il y a 5 ans, il devrait terminer autour de 10%.
Merci à vous Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Cette information qui nous est parvenue il y a peu, elle émane du site d'information Politico. Les négociateurs européens et britanniques auraient conclu un accord sur la rupture entre Londres et l'Union, autant dire le Brexit. Mais plusieurs responsables au fait des discussions démentent l'information en question. Il est 18h07, vous écoutez le journal de France Culture. Aucune avancée dans l'enquête sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Ankara demande toujours à Riyad l'autorisation de perquisitionner le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Jamal Khashoggi a disparu le 2 octobre dernier. Ce soir, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni demandent, je cite, que toute la lumière soit faite. Nous sommes en ligne comme convenu avec Pierre Conessa. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Vous avez travaillé et écrit sur l'Arabie Saoudite. Quelle que soit l'issue à court, moyen ou long terme de l'enquête, quelle lecture avez-vous fait de Donald Trump et de sa déclaration des menaces d'un châtiment, mais toujours et encore et toujours des ventes d'armes?
Vous savez, Donald Trump a fait sa campagne électorale sur la dénonciation de l'Arabie Saoudite, expliquant qu'on trouverait les coupables du 11 septembre, l'attentat du 11 septembre, sur lequel il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Puis ensuite, une fois élu, son premier voyage se fait en Arabie Saoudite et il dénonce le terrorisme iranien. Bon. Donc croire un homme pareil en pensant qu'il va sanctionner l'Arabie Saoudite, je veux dire, c'est à l'égal de tous les tweets dont il nous abonde tous les jours. Non, il n'y a aucun risque de sanction.
Quant à la réaction française cette fois, vendredi soir, Emmanuel Macron disait, bon, le politique, il le disait avec beaucoup d'aplomb, prime sur l'économique. Comment lire une fois de plus cette déclaration?
Comme une déclaration diplomatique. C'est-à-dire qu'on va faire les gros yeux, on va faire un de ces communiqués dans le Quai d'Orsay secret pour dire que ça ne saurait rester que la France exprimera une vive émotion et demandera une enquête indépendante. Mais il n'y aura aucune sanction. D'ailleurs, il n'y a aucune sanction en dépit des livraisons d'armes qui servent éventuellement au Yémen, d'armes françaises. Donc pourquoi cela changerait-il? Non, le seul véritable opposition ne peut venir que de la presse américaine. C'est-à-dire que la presse américaine est giflée par l'enlèvement d'un de ses correspondants. C'est quand même le Washington Post qui est giflé par cet enlèvement. Et donc là, Trump ne veut pas contrôler ça, et les Saoudiens non plus. D'ailleurs, les sanctions ont commencé à tomber, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais justement, aujourd'hui, il y a un article qui montre que tout ce sommet, vous savez, du business qui doit se passer à Riyad...
Du 23 au 25 octobre, oui.
Oui, qui doit se passer a déjà dû enregistrer un certain nombre de défections, non seulement de journaux, qui assuraient un tutorat de cette manifestation, mais d'un certain nombre d'hommes d'affaires. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les gros partenaires du lobbying saoudien en Arabie Saoudite se sont tous retirés, c'est-à-dire le Harbour Group, par exemple, qui était extrêmement important, qui touchait quand même près de 80 000 dollars par mois pour faire du lobbying pour saoudien. On a exactement le Blackstone Group aussi, avec 2,3 milliards d'engagements. Et puis alors surtout, la réunion du business se passe dans le Ritz, vous savez, cette fameuse hôtel dans lequel ils ont enfermé tous les petits camarades de MBS pour leur faire rendre entre 60 et 100 milliards de dollars détournés.
Alors, Pierre Conessa, restons sur ce volet strictement économique en amont du fameux Davos du désert dont vous parlez. Et les lobbyistes français, et les groupes français, et les gouvernements, pardon, les membres du gouvernement français?
Ben oui, là, vous avez ma réponse, c'est le silence. C'est-à-dire que la France, pour le moment, n'a strictement... Vous savez, en France, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a contracté avec toutes les plus grosses boîtes de relations publiques. Havas, Publicis, Admeo, etc. Bon. J'attends toujours leur réaction, hein, face à cette situation nouvelle. Aux États-Unis, on sent bien qu'étant donné la puissance de la presse, ces groupes de lobbying qui sont aujourd'hui épinglés, si vous voulez, par l'attitude de l'Arabie Saoudite, sont obligés de se retirer et de renoncer à des contrats qui étaient pourtant extrêmement profitables. J'attends de savoir demain si, effectivement, Publicis, dont on connaît l'actionnaire majoritaire défenseuse de l'accord des femmes, va faire quelque chose à l'égard de l'Arabie Saoudite. Je ne le pense pas une minute.
D'un dernier mot, Pierre Conessa, vous nous dites qu'il ne faut pas s'attendre à des rejaillissements, à des ruptures d'alliance, à des revirements significatifs.
Oui, absolument. J'en crois pas une minute. Il faudra laisser passer un peu de temps pour que l'affaire soit oubliée, c'est tout.
Bon, on vous remercie en tout cas. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Dr Saoud et Mr Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, aux éditions Robert Laffont. En Hongrie, une loi promulguée par Viktor Orban, qui a compté demain, interdit aux sans-domicile fixe de dormir dans les espaces publics. La police sera alors habilitée à démanteler et à détruire cabanes et abris de fortune. Rien de tel à Paris, en France, avec cette annonce de la maire socialiste de la capitale, annonce de la création de places d'hébergement dans les mairies d'arrondissement, comme dans l'hôtel de ville, des places dédiées spécifiquement à des femmes sans abri. Deux salons de l'hôtel de ville seront transformés en accueil de jour. Une halte de nuit sera également installée, dispositif opérationnel à la fin du mois de novembre, quand les détracteurs d'Anne Hidalgo y voient de la com. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, salue l'initiative, tout en plaidant une fois de plus pour des solutions durables.
Il faut apporter des réponses en urgence, que ce soit de la part de la mairie de Paris qui était volontariste sur le sujet, de la part de l'État. Il faut que toutes les collectivités se mobilisent pour laisser personne à la rue. Mais vous savez, il y a une espèce de ritournelle. On est un peu sur une habitude où pendant l'hiver, pendant 4 mois, on ouvre des places et puis on les referme les beaux jours venant. On sait bien que la solution, c'est de savoir où en sont les personnes, qu'est-ce qui les a conduits dans la rue, et leur offrir des perspectives durables de logement avec éventuellement un accompagnement social autour. Donc non, c'est pas une critique de l'initiative. Au contraire, il faut anticiper, et là c'est plutôt bien anticipé, il faut s'adapter au profil. Beaucoup de femmes à la rue aujourd'hui, c'est assez nouveau depuis 7-8 ans, et effectivement, qu'elles subissent des violences, qu'elles ont peur de rejoindre un certain nombre de centres, que leur intimité aussi est rendue difficile. Donc il y a un sujet particulier sur les femmes à la rue, mais sincèrement, l'essentiel, c'est quand même d'arriver à apporter des réponses durables. Donc c'est à double détente, en fait, la réponse qu'il faut apporter.
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Cette autre information, un adolescent de 12 ans est décédé ce dimanche après avoir été blessé à coups de barre de fer lors d'une rixe impliquant une vingtaine de personnes au Lila, c'est en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Quelques mots de la météo de demain, avec une grande moitié ouest et jusqu'au Hauts-de-France, un ciel très nuageux et couvert le matin, de la pluie plus continue sur le sud-ouest, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, ainsi que l'Hérault, sont placés en vigilance orange aux orages.